Interview.
12, ici Aurélie pour RDWA, à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Bienvenue dans l'interview du jour, aujourd'hui consacrée à l'association Florémont, mais pas que, par le biais de monsieur Lemoine Grégory. Salut Greg.
Salut Lily.
Alors dis-moi, tu viens parler un petit peu des actualités de l'association Florémont, mais pas que, puisque bon, tu as plusieurs casquettes. On les découvrira tout au long de cet entretien. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'association Florémont ?
L'association Florémont est une association dédiée à la connaissance et à la valorisation des plantes sauvages et de leurs usages. Donc elle réunit des gens passionnés de botanique, de cueillette, de phytothérapie, de plantes sauvages comestibles.
Tu es à l'initiative, à la création de cette association ?
J'ai l'honneur d'être fondateur de l'association.
Qui comprend-elle, cette association ?
Alors l'association comprend donc Robin Decle, qui est chargé des enquêtes, puisque ça c'est un premier volet de l'association. Donc en fait, Robin se rend donc chez les gens pour leur demander quelles plantes ils utilisent, quelles plantes ils cueillent, comment ils les utilisent, comment ils les transforment, pour quel usage. Donc il est avec nous depuis janvier 2012, donc ça fait un peu plus d'un an.
Et qu'est-ce qu'elles donnent, ces enquêtes ?
Alors les enquêtes, elles donnent plein de choses différentes. Donc on a enquêté pour l'instant de mémoire environ 80 personnes. Voilà. Alors ce qui a été nouveau cette année, c'est qu'on est allé interroger les productrices de plantes. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des productrices du Diwan, productrices de plantes aromatiques et médicinales. Et puis on allait voir aussi les trois entreprises. Donc là, on a intégré un peu le volet économique de la cueillette.
Je vous informe sur quoi et pourquoi ?
Alors le but, c'est de mieux connaître les rapports aux plantes sauvages dans le Diwa, aussi bien au niveau populaire, donc avec monsieur, madame, tout le monde, mais aussi donc au niveau économique. Et donc en fait, on essaye de faire une sorte de photo, une photo le plus exhaustive possible, de ces rapports au végétal. Donc on a des informations sur le type de salade que les gens ramassent, on a des informations sur le type de plantes pour les tisanes, ce que les gens utilisent pour avec le bois, pour au niveau artisanal. Donc c'est très très varié, on a tout un tas d'usages comme ça qui sont recensés.
Donc nous ici dans le Diwa, on est plutôt sensibilisés, on a quelques plantes de prédilection, d'usage quotidien, mais qu'est-ce que tu peux retirer du constat que vous en faites ? Est-ce que tu sens que les gens sont à l'écoute et sont prêts à abandonner l'aspect chimique, thérapie chimique, au profit d'une thérapie plus naturelle ?
Alors effectivement, dans le Diwa, il y a une grande sensibilité, comme tu dis, sur l'utilisation, la cueillette et l'utilisation des plantes sauvages. Après, ce savoir-là, il est très mélangé, puisqu'on a à la fois des gens qu'on peut appeler des anciens, donc des gens du cru, on va dire, qui ont une pratique qui est plus ancrée dans un savoir populaire, rural, hérité de leurs parents, de leurs grands-parents, etc. Et puis on a toute cette vague de gens qui sont arrivés, en gros, depuis les années 70, et jusqu'à nos jours, et qui apportent, eux, des connaissances, soit de la région d'où ils viennent, soit de ce qu'ils ont pu lire. Donc tout ça, ça se mélange, ça s'interfère. Et donc en fait, on a un savoir très mélangé qu'on ne peut pas qualifier de typiquement traditionnel, rural, mais qui est très intéressant justement de voir ces interactions entre les savoirs anciens et les savoirs nouveaux.
Est-ce que vous cherchez à éveiller les consciences par rapport à ça ? Est-ce que ça fait partie aussi de votre travail ?
Bah tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est plus le volet animation. Donc on milite à notre façon pour effectivement que les gens accèdent à plus d'autonomie, plus de qualité au niveau de l'alimentation, de la santé. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de transmettre dans les balades et dans les stages. Et on se base en partie donc sur les enquêtes qu'on fait nous, mais aussi sur tous les collègues dans les régions voisines qui ont déjà fait des enquêtes.
Alors aujourd'hui, tu parlais de balades, tu parlais de stages, on peut les évoquer ensemble ?
Bien sûr. Donc il y a une balade par mois. Donc c'est une balade à la mi-journée, donc qui dure de 9h à midi. C'est le dimanche. Donc c'est une balade très accessible hein, à tous les curieux de plantes sauvages et de leurs usages. Donc la première, c'est le 17 mars, donc tout bientôt, et elle sera consacrée aux salades sauvages. Donc on se promène, on voit la grande diversité des salades sauvages qui peut exister dans le Divois. Et puis voilà, on explique à la fois le côté très botanique, donc le nom scientifique, la famille, etc. Et puis le côté plus ethnologique de les noms locaux, comment on la ramasse, à quelle époque on la ramasse, comment on la consomme, comment on la prépare. Ensuite, donc le 21 avril sera dédié aux fleurs, herbes et aromates sauvages. Donc là, le 21 avril, si tout va bien, ça sera une période très propice à la cueillette des plantes sauvages comestibles. Donc là, on va balayer vraiment voilà, des usages assez différents. Donc l'idée, c'est pas forcément de, comme ça peut être caricaturé des fois, de tout laisser tomber, d'aller vivre dans les bois et de manger des racines. C'est plus d'agrémenter, d'améliorer son quotidien au niveau de l'alimentation avec ce qui pousse sous nos pieds, sous nos yeux. On poursuit le 5 mai avec les arbres, arbustes et lianes, donc là dédiés aux plantes ligneuses, donc aux plantes voilà, qui font du bois. Donc la reconnaissance, et parmi elles, effectivement, il y a des espèces qui sont très intéressantes au niveau comestible. Ensuite, on poursuit le 30 juin, donc ce sera la dernière pour le printemps, sur les plantes compagnes, des friches et des baillasses. Donc les baillasses, c'est des espèces de garrigues incultes, pierreuses, mais qui sont très riches, notamment en aromatiques méditerranéennes, type le thym, la lavande, etc. Donc ces balades sont au prix de 10 euros. Donc il faut s'inscrire auprès de l'association pour réserver. Et je répète encore une fois, c'est des balades qui sont accessibles vraiment à tous, hein, qu'on soit en famille, qu'on soit personne âgée, qu'on connaisse pas grand-chose ou qu'on connaisse rien du tout. Voilà, c'est des balades de sensibilisation.
Et justement, alors il y a la sensibilisation, mais après, est-ce qu'il y a toujours cette fameuse phase de transformation où les gens dégustent les produits qu'ils viennent de ramasser ?
Alors là, cette année, dans les balades, on n'a pas intégré cette phase de transformation parce que c'était un peu contraignant au niveau logistique. Ça demande une salle, ça demande du matériel, etc. Donc ce qu'on propose cette année, c'est pour ceux qui sont intéressés par la transformation et une connaissance plus poussée des plantes et de leurs usages, c'est donc les 4 stages qu'on organise cette année, dont les 2 premiers, donc avec une équipe commune, donc on est 3, avec Vincent Delbecq, qui est pharmacien, phytothérapeute et botaniste Adi, qui est assez connu. Satya Nagera, qui est productrice, cueilleuse et transformatrice de plantes sauvages, et moi-même. Donc à nous 3, on essaye de proposer donc 3 approches complémentaires qui couvrent de l'identification des plantes jusqu'à la transformation.
Donc tu parles de Vincent Delbecq et justement ça me permet de rebondir sans transition, sans trop de transition, sur l'édition du livre qui a eu lieu en 2012 me semble-t-il. Est-ce que tu peux nous en parler de ce livre ?
Alors le titre c'est « Les plantes sauvages de la Drôme et leurs usages ». Donc on est en plein dans le sujet. Donc c'est un livre qu'on a écrit effectivement pendant l'hiver 2011-2012 et qui est sorti donc au printemps 2012, donc il y a un an. Et on a essayé avec Vincent de faire un ouvrage qui soit un guide pratique, donc c'est-à-dire quelqu'un qui veut se mettre à la cueillette des plantes sauvages. On espère que ce livre va l'aider à identifier les plantes, à pouvoir les reconnaître, à ne pas se tromper, parce que dans la nature, il y a des plantes très dangereuses, très toxiques. Et puis pour chaque plante qu'on a décrite, on donne une recette. Donc ça couvre aussi bien des usages médicinaux, des usages comestibles, et des usages artisanaux. Donc normalement, avec ce guide, quelqu'un qui veut s'initier, qui veut commencer à intégrer les plantes sauvages ou améliorer cette utilisation, normalement, il est à même de pouvoir le faire.
Quelle édition
Alors les éditions, c'est Savoir de Terroir. Donc c'est une maison d'édition qui est basée en Ardèche et qui est assez connue dans le milieu pour tout un tas d'ouvrages qui traitent des plantes, des savoir-faire ruraux. Voilà, ils ont une grande collection d'ouvrages. Donc une maison d'édition très sympathique. Artisanale, mais en tout cas petite maison d'édition.
Comment vous vient l'idée de l'éditer ce livre ? Parce que vous constatez que sur le marché du livre consacré à la botanique, entre autres, ce livre-là n'existe pas. Comment vous en arrivez à ce projet ?
Alors effectivement, l'intérêt qui nous semblait pour la rédaction et l'édition de ce livre, c'est de faire un ouvrage qui est dédié aux plantes de la Drôme. C'est-à-dire on trouve des ouvrages très généraux sur les plantes de France, les plantes de Méditerranée, etc. Mais nous, on voulait vraiment axer uniquement sur les plantes de la Drôme. Parce qu'on pense, et même c'est certain, que la Drôme est un département très riche au niveau de la flore, parce qu'on a à la fois le côté Vercors, le côté Aubuèche avec le Sacro-Haute, qui est vraiment des territoires de haute montagne, de montagne, et puis on a tout le sud de la Drôme, qui est un territoire plutôt méditerranéen, donc on a une très grande diversité, et on s'est dit, bah, c'est dommage qu'un département comme ça n'ait pas un ouvrage entièrement dédié à sa flore.
Voilà qui est fait. Donc merci à tous les deux. Hein. Et tout de suite, petite pause musicale avec « Au bois de mon cœur » de Georges Brassens. Bonne écoute.
Il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Au fond de ma cour, je suis renommé. Au fond de ma cour, je suis renommé. Renommé pour avoir le cœur mal famé, le cœur mal famé. Au bois de Vincennes, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, dans mon tonneau, ils n'ont pas peur de boire mon eau, de boire mon eau. Au bois de Meudon, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Il m'accompagne à la mairie, il m'accompagne à la mairie. À la mairie, chaque fois que je me marie, que je me marie. Au bois de Saint-Cloud, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Chaque fois que je meurs fidèlement, chaque fois que je meurs fidèlement, fidèlement, ils suivent mon enterrement. Mon enterrement. Des petites fleurs, oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur.
On va revenir sur les activités de l'association Florémont, si tu veux bien. Donc, on vient d'évoquer hein, les balades botaniques, mais il n'y a pas que ça.
Tout à fait. Alors, pour compléter ce que je disais sur les stages, donc pour donner les dates, c'est des dates que vous pouvez retrouver évidemment sur le site de Florémont. Donc, le premier stage, c'est du 18 au 20 mai, donc c'est 3 jours. Ça se passe à Boulcandibois. Et le deuxième stage qu'on organise avec Vincent et Satia, c'est du 22 au 23 juin à Luz-la-Crotte. Donc la différence entre les deux, parce que c'est une question qu'on pose souvent, c'est que le stage de juin va être plus axé montagne, puisqu'à Luz-la-Crotte, voilà, on va rencontrer plutôt une flore de montagne. Et celui de mai va plutôt être des collines de moyenne montagne. Et puis pour poursuivre sur les stages, donc on a un stage fin juillet, donc du 27 au 28 juillet, en compagnie de mes collègues de l'ancien monastère de Sainte-Croix, donc Marie-Marquet Teinturière et Aurélie Labbé Tisserande. Et là, pendant 2 jours, on va essayer de couvrir donc, les 4 grands usages des plantes, donc le côté comestible, le côté médicinal, tinctorial, donc comment faire des couleurs avec les plantes, et textile, comment faire des fibres, des tissus avec les plantes. Et ensuite, on finit par un dernier stage donc, du 28 au 29 septembre en compagnie de Sylvain Dalcortivo, qui est accompagnateur en montagne, sur une randonnée naturaliste qui va se passer dans le Haut-Diois, donc dans le secteur en gros du col de Grimone, entre Châtillon et le col de Grimone.
Donc vous retrouverez, hein, bien sûr, chers auditeurs, tous les contacts, hein, à l'issue de cette interview, et puis bien sûr disponible sur la page www.rdwa.fr. Allez, les balades, les stages, et, me semble-t-il, visite de jardin botanique aussi.
Tout à fait. Donc on a repris la gestion du jardin botanique donc depuis 2011 à l'ancien monastère de Sainte-Croix qui se trouve à une petite dizaine de kilomètres de Die. Donc c'est un lieu magnifique, donc c'est un monastère qui date du Moyen-Âge. Donc déjà le patrimoine bâti est très intéressant. Et puis donc à cet endroit, il y a eu un jardin botanique qui a été créé en 2000 et qui était à l'état d'abandon depuis plusieurs années. Et quand la nouvelle équipe a repris la gestion du site, ils m'ont contacté pour remettre en place ce jardin. Et donc j'ai recréé des parterres thématiques. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça sera un peu long, mais vous avez toutes les infos sur le site. Et donc en plus de ce côté vraiment jardinage, mise en place de parterres thématiques avec des plantes dédiées, on organise une fois par mois donc une visite guidée thématique dans ce jardin. Donc c'est les derniers mercredis de chaque mois de 15h à 18h. Et donc les dates et les thèmes sont les suivants. Donc ça commence le 27 mars avec senteurs et saveurs printanières. Donc comment un peu réveiller nos sens, nos papilles avec les plantes aromatiques, condimentaires qu'on trouve au jardin. On enchaîne le 24 avril avec les plantes alimentaires du Moyen-Âge. Donc là, plus une approche historique. Qu'est-ce qu'on mangeait avant la découverte de l'Amérique? Donc ça, ça nous semble intéressant de resituer un peu dans l'histoire que ce qu'on mange maintenant en 2013, ce n'est pas forcément ce qui existait à cette époque-là, à l'époque du monastère de Sainte-Croix. On enchaîne ensuite le 29 mai sur les médicinales méditerranéennes, parce qu'on a une collection de thym, de sauge, de lavande et de tout un tas d'espèces très intéressantes au niveau des propriétés médicinales. Et ensuite, on finit le 26 juin par les plantes du feu des Ardents. Donc je sais que ça intrigue beaucoup de gens, mais il faut savoir que c'était la spécialité donc, de l'ancien monastère Sainte-Croix qui soignait l'ergotisme. L'ergotisme, c'est un champignon qui parasite les céréales et qui a donné ensuite le LSD, bien plus tard. Donc en fait, à l'époque, au Moyen-Âge, les gens consommaient du pain qui était infesté par ce champignon. Et en fait, ils avaient des formes complètement délirantes, avec des hallucinations, des convulsions, etc. Et le monastère de Sainte-Croix, comme d'autres monastères du même ordre, soignait donc cette maladie. Il faut savoir qu'à l'époque, ils n'avaient pas forcément fait le lien entre ce champignon parasite et la maladie, l'ergotisme.
Alors comment pouvait-il le soigner en n'ayant pas pris conscience de ce lien ?
Alors il y avait un côté très symbolique qui n'a pas d'efficacité thérapeutique, c'est-à-dire ça peut paraître un peu gore, un peu trash à écouter maintenant, mais à l'époque ça avait vraiment un sens symbolique très fort. On faisait passer du vin sur les os de Saint Antoine, donc qui est le saint qui a fondé l'ordre des Antonins, et on faisait boire aux malades ce vin qui était passé sur les os. Donc effectivement, c'est pour ça que je me permets de dire que ça n'a pas d'efficacité thérapeutique avéré, si ce n'est l'euphorie qui permettait peut-être d'oublier un peu la maladie. Et sinon, à côté de ça, il y avait des plantes qui avaient plus d'efficacité thérapeutique, notamment des plantes calmantes, et puis des plantes purgatives, c'est-à-dire que les gens se vidaient, et à l'époque, on pensait que comme ils se vidaient, la folie allait se vider par les orifices naturels, excusez-moi l'expression. Donc voilà, c'était sûrement un traitement assez trash. Hein. On ne voudrait pas passer par là forcément maintenant en 2013. Mais dans l'approche historique, je trouve ça intéressant de dire comment on percevait la maladie, comment on la soignait, sachant qu'on n'avait pas encore la science telle qu'on l'a maintenant.
Tout à fait, ils ont essayé de s'en sortir comme ils pouvaient. Hein. Lors de ces visites, on en apprendra plus, j'imagine.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le jardin botanique de l'ancien monastère Sainte-Croix est en accès libre toute l'année. 24 heures sur 24 presque. Voilà, en dehors des visites guidées, bien sûr, les gens peuvent se rendre sur le site et visiter le jardin. Donc cette année, on espère qu'une signalétique va être mise en place qui permettra justement aux gens qui viennent en visite libre de pouvoir comprendre les parterres thématiques, l'organisation du jardin. Donc voilà, je vous invite tous les curieux de plantes et d'histoire à venir à l'ancien monastère pour visiter le jardin botanique.
Comment tu le sens, ce jardin réactualisé ? Est-ce qu'il a des chances de perdurer ?
Moi, je pense que c'est un outil formidable hein, pour le territoire qu'est le Diwa, puisque, jusqu'à ma connaissance, hein, je crois que c'est certain, c'est le seul jardin botanique sur notre territoire. Donc, c'est un outil de sensibilisation, de formation. Et donc, c'est pour moi quelque chose qu'il faut vraiment défendre, c'est-à-dire de pouvoir présenter des plantes, donc avec un étiquetage. Et ça permet de sensibiliser et d'affiner la connaissance pour tous ceux qui s'intéressent aux plantes. Donc pour moi, c'est un outil formidable. Après, il y a des contraintes, on va dire, foncières, professionnelles, financières, qui font qu'on est en train de construire le projet. Donc voilà, on n'a pas un bail de 99 ans, ce qui serait idéal. Mais on espère effectivement que ce jardin, comme le projet global du site, va perdurer. Et l'équipe du monastère nous soutient entièrement dans ce projet.
Et financièrement, vous êtes soutenu ou bien ?
Alors, on n'est pas soutenu. Donc nous, on organise donc des visites. Donc, il y a le programme grand public, mais on organise aussi des visites pour des groupes déjà constitués. Et on va dire qu'on finance tout le côté jardinage avec le côté animation. Mais voilà, c'est pas très rutilant, on roule pas sur l'or, loin de là.
Donc bah, on peut peut-être en profiter hein, d'être à l'antenne pour lancer un appel hein, si vous voulez soutenir le jardin botanique de Sainte-Croix, hein, de l'ancien monastère de Sainte-Croix. Voilà, vous pouvez le faire. Hein, donc on donnera tous les contacts à la fin de cette entrevue. Allez, donc me semble-t-il, Greg, tu es ethnobotaniste. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre ?
Oui, alors c'est un titre, je précise tout de suite, qui peut paraître un peu présomptueux parce que c'est une science qui ne possède pas de diplôme en France. Autant ça peut exister par exemple aux États-Unis. Donc c'est vrai que n'importe qui pourrait s'auto-proclamer ethnobotaniste parce que du moment qu'il n'y a pas de diplôme, voilà. Disons que je m'intéresse aux relations entre les sociétés humaines et le végétal. Donc c'est ça le propos de l'ethnobotanique. Donc il y a des grands messieurs hein, dans l'ethnobotanique, à commencer par Pierre Liotagui, je pense qu'il est assez connu. Pour ceux qui s'intéressent aux plantes sauvages, qui a vraiment écrit des ouvrages absolument fantastiques. Le plus célèbre, sans doute, qui reste un ouvrage de référence en phytothérapie familiale, historique, ethnologique, c'est le Livre des bonnes herbes. Mais il a écrit des ouvrages plus sur notre rapport au végétal, comme la plante compagne, l'herbe qui renouvelle. Et donc moi, je m'intéresse depuis très longtemps donc, à ce rapport entre les plantes et les hommes. Et donc, au fur et à mesure des années, parce que ça fait, on va dire, une petite vingtaine d'années que je bosse là-dedans. Donc voilà, je développe à la fois le côté collègue, comme je disais, avec mon collègue Romain, et le côté animation, là, tout ce que je viens d'écrire, les balades, les visites et les stages.
En tout cas, ethnobotanistes, alors, ce sont purement des autodidactes hein.
Alors, il y a beaucoup d'autodidactes. Voilà. Donc il faut savoir qu'à la belle époque, c'est-à-dire jusqu'à l'après-guerre, il y avait un laboratoire d'ethnobotanique au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Donc je dis la belle époque parce qu'il y avait des gens comme Jacques Barrault, par exemple, qui ont fait beaucoup de travaux et qui avaient donc un poste public, payé, reconnu, etc. Et puis depuis ce temps-là, c'est un peu la déliquescence. Donc on a effectivement beaucoup de gens, c'est beaucoup des gens passionnés qui viennent d'horizons divers. Entre Pierre Liotagui, qui est plutôt un écrivain naturaliste et qui est devenu quand même la référence en ethnobotanique, Bernard Bertrand, qui est paysan, Gérard Dussert, qui est agriculteur, Jean-Pierre Nicolas, qui est éducateur spécialisé. Donc en fait, on a des gens très divers. Et je crois que ce qui nous réunit tous, c'est cette approche transversale. C'est-à-dire de ne pas prendre les plantes juste pour les plantes, mais de toujours les regarder dans une approche sociale, humaine, culturelle. C'est ça qui nous réunit, je pense.
De la replacer dans le contexte.
Tout à fait.
Allez, si le Diwa Lambda avait une plante à avoir dans sa pharmacie ou en tout cas dans son épicerie, je ne sais pas comment on peut dire, laquelle ce serait ?
Alors là, c'est très dur de faire des choix. Évidemment, il y a des plantes qu'on peut qualifier de majeures, comme par exemple la lavande officinale, qui est vraiment une plante archi connue, utilisée pour de multiples usages. Donc on pourrait dire que la lavande officinale est quand même une plante emblématique. Pour préciser, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément cette espèce, c'est vraiment une lavande de montagne, donc ce n'est pas la même espèce que celle qu'on peut trouver dans des champs en plaine. Donc vraiment la lavande de montagne qui pousse plutôt entre, on va dire, 800 et 1200 mètres. C'est une lavande très parfumée, très riche en propriétés médicinales. Et c'est vrai qu'on a retrouvé dans les enquêtes énormément de citations et d'usages de cette plante-là. Après, voilà, on pourrait essayer de faire un top 10 des plantes du Diois. Quand on a écrit le bouquin, justement, avec Vincent, on a dû choisir 30 plantes, parce que voilà, on était limité en nombre de places, sinon on en serait encore à écrire la 400e page. Et donc, choisir les 30 plantes était très difficile. Donc, on essayait vraiment de trouver des plantes emblématiques. Donc, c'est vrai que la lavande, ça fait partie des plantes qui sont incontournables. La vulnéraire des montagnes aussi, c'est une plante très, très importante. Mais par exemple, des plantes très communes comme le pin sylvestre, hein, qui constitue la bonne partie de nos paysages, bah, c'est une plante qui est très connue aussi dans le coin. Donc voilà, ça dépend un peu des gens, ça dépend un peu de ce que les gens recherchent au niveau des plantes. Mais voilà, il y a quand même des plantes qui sortent du lot, très clairement.
Ok, incontournable en tout cas. Merci hein, Greg, de toutes ces précisions. Si tu veux bien, on va rappeler les contacts de l'association Florémont, c'est à toi.
Donc l'association Florémont peut être contactée donc au numéro de téléphone suivant, 04 75 21 24 69. Le mail est florémont, donc sans accent, florémont@orange.fr. Et le site internet, c'est http://florémont.over-blog.com. Et donc l'adresse, si vous voulez lui écrire, c'est Association Florémont, Soubre-Roche, 26410, Boulcandiois.
Merci Greg de toutes ces précisions. Et puis bah, peut-être un rendez-vous prochain sur le top 10 des plantes à avoir dans sa pharmacie. Moi, je te souhaite bon vent, je souhaite bon vent à toutes tes entreprises. À bientôt.
À bientôt, merci.
Interview. 1, terre.
Hey, the bird.
L'interview du jour.